auditrices, salut les auditeurs, c'est Greg et je vous retrouve avec Hermano aujourd'hui pour un podcast qu'on va enregistrer tous les deux. Un podcast de cette saison 4, Hermano. Le temps file hein, et les épisodes se suivent.
Oui, ça va très très vite et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi Greg. Donc salut Greg et salut à toutes et à tous.
Donc je disais, voilà, les épisodes filent. On a déjà enregistré pas mal d'épisodes dans cette saison 4. On a lancé cette série sur le dopage. On a déjà deux beaux épisodes qui ont été publiés. Et puis, peut-être juste en teasing, avant de commencer la thématique du jour, on va parler de l'épisode qu'on diffusera dans deux semaines. Un épisode passionnant, un épisode qui prend un peu aux tripes, hein, avec une invitée qui a un récit hors du commun à raconter. C'est difficile d'avoir des témoignages de ce type-là. Et donc, du coup, on se réjouit de le diffuser à nos auditeurs.
Ouais, et je dois bien dire que c'est la seule fois où j'ai versé une petite larmichette pendant un podcast, tellement j'étais ému pendant l'enregistrement de cet épisode. Et puis après d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'en parler avec Mathieu Muller qu'on avait reçu il y a quelques semaines justement dans le podcast pour parler dopage et prévention du dopage et c'est vrai que l'histoire n'est a priori pas simple et lui mettait en avant certains points, mais bon, on aura certainement l'occasion d'en reparler dans quelques temps, une fois qu'on aura diffusé l'épisode dont tu parles justement avec notre invité mystère.
Oui, exact, ce sera à découvrir dans deux semaines pour continuer cette série sur le dopage de cette saison 4. Aujourd'hui, on est là pour parler d'autres choses. On ne parle pas de dopage, mais on continue évidemment à parler de sport, de distance, d'exploits sportifs, de réalisation, de dépassement de soi-même, parce qu'on va parler de grandes distances, d'épreuves sportives qui sont longues, qui sont des exploits pour la plupart des personnes qui les réalisent. Et pourtant, je ne sais pas pour toi, mais on constate, en tout cas moi je constate, qu'il y a une espèce de banalisation de la longue distance et des épreuves sportives qui nécessitent un investissement en temps, en énergie, qui sont des exploits pour une grande partie des personnes qui les réalisent. Une banalisation dans le sens où dans l'inconscient collectif, peut-être que ces distances sont devenues un peu trop banales. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hermano.
Écoute, moi je voudrais commencer cet épisode déjà avec un petit peu d'anecdote, un peu d'histoire, un peu de revenir un peu en arrière, enfin en tout cas sur mon histoire à moi. Je te l'ai déjà dit, je suis un dinosaure par rapport à toi. J'ai commencé le triathlon, j'avais 15-16 ans, donc en 95, et effectivement à l'époque déjà je rêvais d'Hawaï. Bon, faut dire que dans le club où j'étais, il y avait un petit Frenchie, Christophe Buquet, qui avait déjà été à Hawaï, et donc ça force aussi l'admiration, ça fait rêver. Malgré tout, pour moi l'Ironman c'était quelque chose que j'envisageais d'atteindre à 30, 35 ans, parce que pour moi, ça demandait beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise dans le domaine, et puis surtout de commencer à travailler son endurance. C'était une chose à laquelle j'étais déjà, alerte quand j'avais 15-16 ans, quand j'ai découvert le triathlon. Moi, je m'entraînais plutôt sur des distances très courtes, donc du super sprint, du sprint, et puis vers 20 ans, j'ai commencé à monter sur la distance olympique, donc courte distance, avant d'envisager monter encore après. Je me souviens que mon premier long, c'était les championnats du monde de longue distance à Lorient en 2008 ou 2009. Donc voilà, ça remonte déjà, tu vois, mais j'avais 28 ans, donc j'étais pas loin de la trentaine que j'envisageais. Et je me souviens justement quand j'avais 15-16 ans et que j'ai commencé, et même sur des courtes distances, quand j'échangeais avec des copains de mon âge, tu sais, l'adolescence, les soirées, tu bois un petit coup, etc. Et on me demandait, toi, tu fais quoi comme sport? Et moi, je disais, je fais du triathlon. Ah, mais c'est quoi? Et quand je commençais à parler, c'est natation, c'est vélo, c'est course à pied. Alors, il y a plusieurs distances, mais moi, je pratique plutôt sur des distances courtes. Et là, j'avais l'impression que le regard des gens changeait. T'es un surhomme, mais t'es un Iron Man, t'es un homme de fer. Et ça, c'était il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et effectivement, il y a longtemps, pratiquer le triathlon, c'était déjà un sport un peu extrême. Et puis, j'ai l'impression, comme tu le dis, que ces 20 dernières années, au fil de l'eau, le triathlon étant devenu de plus en plus populaire, les distances se sont popularisées aussi. Alors, je parle de triathlon, mais je pourrais aussi parler d'autres épreuves, je pourrais parler d'autres disciplines. Et je regrette un peu que, tu as presque l'impression qu'on peut manger un Ironman au petit-déj plusieurs fois par mois, quoi. Donc, je m'insurge aussi un petit peu comme toi sur cette espèce de banalisation des distances longues, des distances, des sports un peu plus d'endurance. Et je pense qu'il faudrait revenir peut-être à la base de ce sport et peut-être de la pratique qui, effectivement, quand on veut se lancer sur des épreuves longues, des épreuves d'endurance, bah, ça va demander beaucoup de pratique, beaucoup d'expérience et parfois de se casser les dents. Donc, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde de monter sur un Ironman dès la première participation à une compétition sportive.
Ouais, tout à fait. Moi, je voulais revenir peut-être au premier épisode qu'on a diffusé sur cette saison 4 avec un invité. Enfin, c'était sauf erreur, l'épisode 2 hein, qu'on a diffusé avec un invité. C'était avec Pierre Morat. On faisait le débrief un petit peu de son aventure marathon sans fin. Et puis, on a commencé à parler un petit peu de performance et on a parlé un petit peu aussi de à quel point est-ce qu'on peut considérer un marathon quand on le court en 7 heures, etc. Après, bien évidemment qu'il y a des choses comme ça. Mais aujourd'hui, le marathon est quand même drôlement banalisé dans la société. C'est-à-dire que si il y a 20 ans, tu disais « je suis marathonien », dans les années 90, 90 ou 2000, le début des années 2000, tu disais « je suis marathonien », les gens étaient impressionnés. Tu disais « waouh, c'est quand même un effort incroyable, courir 42 km », les gens essayaient de se représenter ça. Maintenant, j'ai l'impression que quand tu dis aux gens « je suis marathonien », souvent, la première réponse que tu obtiens, c'est « ouais, mais je connais quelqu'un qui fait plus. Je connais quelqu'un qui fait mieux. Je connais mon voisin, il fait de l'ultra-trail. Lui, c'est 160 km. » C'est plus la considération de l'effort que tu fais, mais c'est toujours de trouver quelque chose ou quelqu'un qui fait mieux. Alors, je ne sais pas si c'est lié à un biais parce que je suis entouré de gens qui font des trucs de malade et forcément, ils ont toujours l'anecdote de la personne qui en fait plus. Je ne sais pas si c'est un changement de société ou si c'est vraiment une banalisation de ces choses-là. Est-ce que dans la société maintenant, on veut ne plus mettre en avant des personnes et puis banaliser tout ce que tout le monde fait? Ou est-ce que c'est tout simplement le fait que 42 km, on a l'impression que maintenant, c'est facile? Je peux t'assurer, Hermano, que c'est pas facile. Et puis, pour revenir à l'anecdote de Marathon sans fin, moi, j'entendais, je sais plus si c'était Gebrselassie, je crois, qui disait à l'arrivée d'un marathon, « Waouh, vous devez être fatigué, vous avez couru 2h08 pour votre marathon, etc. » Et puis, Gebrselassie disait, « Mais vous savez, derrière moi, il y a des gens qui sont encore en train de courir le marathon maintenant. Ça fait une demi-heure que je suis arrivé. Il y a des gens qui sont encore en train de courir. Vous savez, moi, quand je pars pour un marathon, je pars à fond, mais c'est à fond pendant 2h10. Derrière, il y a des gens qui font leur marathon en 3h30, mais eux, ils sont en 3h30 à fond. C'est-à-dire qu'ils sont 1h30 de plus que moi à fond. Donc, ils sont plus impressionnants que moi. Allez leur poser la question à eux. Et je trouvais ça incroyable parce que c'est vrai, un athlète qui fait 2h10, 2h15 au marathon, il souffre pendant 2h15. Mais on peut imaginer que le niveau de souffrance est presque le même, voire pire, pour un athlète qui va faire 3h45 ou 4h.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, pour rester un petit peu dans les anecdotes et dans le questionnement, moi, je pense que c'est aussi un changement de la société de manière générale. Alors, déjà, je pense qu'il y a une question de communication. Les fédérations sportives font de plus en plus de communication. Le sport, mine de rien, re-rentre de plus en plus dans le quotidien des gens. Et moi, il y a une chose qui, pour moi, est assez révélatrice, c'est que, pour revenir sur ce que je te disais, il y a 20 ans, j'avais 20 ans et je disais à quelqu'un, je suis marathonien, et on me disait, ah ouais, mais un marathon sur quelle distance?
Oui, oui.
Alors, un marathon, ça fait 42,195 km. Mais maintenant, peut-être 70% des gens à qui tu vas poser la question en mode micro-trottoir vont savoir qu'un marathon, ça fait à peu près 42 km. Il y a 20 ans, les gens ne le savaient pas. Donc si déjà beaucoup plus de gens savent ce qu'est un marathon, je pense que ça tend aussi à banaliser un petit peu cet effort. Mais effectivement, courir un marathon, ça reste un effort surhumain de courir un marathon. On se rappelle quand même que le mythe de marathon, c'est que celui qui a couru le premier marathon pour aller de Athènes jusqu'à Marathon, il est mort en arrivant.
Oui, cette histoire est dans la mythologie de la distance. On en avait parlé lors d'un épisode, il me semble que c'était en saison 3, que cette distance du marathon de 42,195 km, elle s'est vraiment formalisée il y a peu de temps. Auparavant, c'était des distances qui étaient un petit peu fluctuantes, mais elle a toujours été entre 40 et 42 km. Et c'est vrai que ça reste un exploit, ça reste quelque chose qui est absolument pas anodin de couvrir cette distance en course à pied. Et voilà, la banalisation fait que maintenant, il y a des personnes qui peuvent courir des trails de 50 km hein, qui vont au-delà de la distance du marathon. Et puis finalement, tu vas en parler à certaines personnes qui sont des sédentaires et qui, au lieu de te dire « Waouh, 50 km, c'est incroyable », vont te dire « Mais moi, je connais quelqu'un qui en fait 160 ».
Ouais. En fait, dans ces réflexions-là, je pense qu'on ne prend pas forcément en compte la dureté des différentes épreuves. Je m'explique. Un marathon, très souvent, c'est sur du bitume, c'est sur de la route. Et donc, effectivement, quand on court 42 km, à part certaines épreuves, ça reste relativement plat. Je parle de relativement plat. À contrario, quand on fait du trail, on a une notion de dénivelé. Que l'on parte sur du trail long, que l'on appelle ultra trail ou pas, on a quand même cette notion de dénivelé, de difficulté, de dureté au-delà d'une épreuve du marathon. Mais malgré tout, oui, quand tu parles de marathon à quelqu'un, il va te dire, bah moi je connais quelqu'un d'autre qui fait du trail, qui fait de l'ultra trail, qui fait de l'Ironman, parce qu'un Ironman, bah, c'est nager, rouler et finir par courir un marathon. Bah, peut-être que si tout le monde connaît des trailers, des Ironman, des gens qui font du sport d'endurance, ça tend certainement à banaliser cet effort qui finalement est encore une fois rien de banal. Est-ce que c'est un changement de société? Est-ce que c'est le fait que le sport d'endurance rentre de plus en plus dans le quotidien des familles? Est-ce que c'est le fait que les fédérations, les marques, les sponsors parlent de plus en plus, donnent de plus en plus la part belle à ces sportifs de l'extrême et que ça tend à banaliser, à généraliser les choses? Je sais pas. Je sais que, par exemple, aux États-Unis, la notion de l'Ironman est encore différente, elle est encore vue différemment. Oui, effectivement, quand tu finis un Ironman du label, enfin un triathlon XL du label Ironman, tu as le droit à « You are an Ironman ». Ouais, mais je trouve que c'est vachement dénué de sens, finalement, parce que en France, enfin en Europe, ça reste... Même si ça tend à se banaliser, ça reste quand même quelque chose de difficile. Aux États-Unis, des Ironman, t'en as toutes les semaines et c'est presque accessible à tout le monde. T'as pas de première étape à franchir pour pouvoir t'inscrire sur un Ironman. T'as même pas besoin d'être licencié.
Non, enfin oui, tu dois avoir une licence, mais...
Que tu peux prendre à la journée, en fait. T'es pas obligé d'être licencié dans un club.
Oui, alors c'est ça. C'est simplement une formalité administrative. Maintenant, il y a une banalisation quand même qui est concrète hein, au niveau de ces distances. C'est-à-dire que quand on regarde, et Pierre Morat le disait... dans un de nos épisodes, si tu regardes le marathon de New York ou le marathon de Boston il y a 30 ans et le marathon de New York ou le marathon de Boston aujourd'hui, dans la moyenne, ça va beaucoup moins vite aujourd'hui. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se disent « Bon, je vais faire un marathon dans ma vie. »
Enfin, ça va moins vite, sauf aux avant-postes quand même, parce que notamment Boston qui est
moyen,
sur...
Le temps moyen du coureur, le temps moyen ou médian, est beaucoup moins rapide qu'il y a 30 ans. Parce que y a beaucoup de gens qui se lancent le défi du marathon. Avant, c'était réservé quand même à une certaine élite, à une certaine catégorie de personnes qui pratiquaient la course à pied de manière très sérieuse, qui faisaient le marathon parce que c'était la finalité de leur entraînement ou de leur saison sportive. Aujourd'hui, il y a des gens qui font un marathon. On en a parlé avec Pierre Morat. Hein, en 7 heures, est-ce qu'on peut toujours considérer ça du marathon? Les gens se passent la ligne d'arrivée en 6h30, 7 heures et se considèrent comme marathoniens. Et voilà, j'ai fait un marathon dans ma vie. C'est vrai que ça donne, d'un certain côté, c'est très bien au niveau de l'exploit sportif, mais d'un autre côté, ça donne peut-être une image d'accessibilité extrême de ce genre de distance. On le voit aussi sur de l'Ironman, pas plus tard qu'aujourd'hui, je discutais avec un collègue d'entraînement des cut-off time d'Ironman. Quelqu'un disait, tu vois, sur cette course, le cut-off time, c'est pas 16h30, c'est 17h. Moi, je me disais, finalement, qu'est-ce que ça peut bien changer? Mais y a des gens qui regardent ça parce qu'ils se disent, je vais faire un Ironman dans ma vie. Et pour eux, les 42 km du marathon, ça va se faire quasiment qu'en marchant. Donc en marchant 42 km, on imagine bien qu'il faut un peu de temps. Et donc du coup, il faut prévoir le truc. Alors, moi, je ne suis pas forcément contre le fait d'ouvrir à n'importe qui le fait de pouvoir se lancer sur la distance Ironman. Je trouverais que ça deviendrait trop élitiste ou de donner des minima ou de remplir des conditions. Je suis un peu contre. Maintenant, la question, c'est de savoir quel est le niveau que tu aimerais de l'athlète qui finit, entre guillemets, dernier de ton épreuve. Si c'est 17 heures de cut-off time, a priori, je dirais qu'à peu près n'importe qui peut terminer, effectivement, comme tu le dis, sans avoir un entraînement adéquat, la distance.
En fait, je pense que c'est assez dur à jauger, mais moi, je serais plutôt un adepte de dire que ouvrir à tout le monde, oui, mais ouvrir à tout le monde pour autant que ça reste un challenge, un défi. J'ai été confronté à ça, enfin confronté, non, mais j'ai eu la chance d'échanger avec des gens extraordinaires dans une communauté de sportifs, et notamment la communauté de Bertrand Soulier, pour pas la citer. Et il y a des gens qui se sont adonnés cette année, enfin qui se sont alignés cette année sur leur premier marathon. Et leur objectif, c'était pas de faire 3 heures, c'était pas de faire 4 heures, c'était peut-être même pas de faire 5 ou 6 heures, c'était d'aller au bout. Mais c'était d'aller au bout pas n'importe comment. Je veux dire, c'était pas une épreuve qui... Ils ne prenaient pas cette épreuve-là comme je vais y aller, puis je vais marcher tout du long, et puis je passerai la ligne, et puis je pourrais dire que je suis marathonien ou marathonienne. Non, ce sont des gens qui se sont entraînés pendant des semaines, des mois, qui en ont littéralement souffert, véritablement comme certains athlètes élites qui se donnent à fond pour leur préparation. Simplement, ils l'ont fait à leur niveau, avec leur niveau de capacité. C'est un petit peu ce que racontait Pierre Morat quand on l'a reçu avec son documentaire Marathon sans fin. C'est qu'effectivement, il y en a qui ont fini le marathon en 6 heures, mais ils ont tout donné, ils ont été au bout. Et moi, je suis assez adepte d'ouvrir ces possibilités aux gens qui vraiment se lancent dans ce défi et qui n'y vont pas juste pour dire, pour accrocher une médaille de plus dans leur tableau de médailles, ou pour cocher une case sur leur to-do list en disant un jour j'ai fait un marathon ou un jour j'ai fait un Ironman. Non, pour moi, je voudrais que ça reste la beauté, les valeurs du sport, et qu'on y arrive parce qu'on se dépasse et on va au bout de ce qu'on est capable de faire.
Oui, alors je suis entièrement d'accord avec toi, et moi je veux pas du tout dénigrer les personnes qui terminent un marathon en 5 heures ou plus, parce que je sais que ça peut être un challenge très différent pour chacun, en fonction de son âge, en fonction de sa condition physique, en fonction d'éventuellement un handicap ou une blessure, ou peu importe, de se lancer un challenge. Et je suis absolument pas contre. Maintenant, c'est vrai que on doit arriver au bout de l'épreuve, peu importe le temps, peu importe finalement peu importe le temps qu'on aura mis. Mais on doit arriver au bout de l'épreuve en se disant, voilà, je me suis dépassé. J'ai fait tout ce que je pouvais, tout ce qui était en mon pouvoir, à l'entraînement, pour être le plus rapide possible aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai tout donné. J'ai plus un gramme d'énergie à l'arrivée. Je suis fier de ce que j'ai fait. Et pour moi, à partir de ce moment-là, ben voilà, on a accompli quelque chose. Parce qu'on peut pas arbitrairement donner une limite à une épreuve. Prenons le marathon, hein, puisqu'on l'utilise en exemple, mais c'est pas valable pour l'Ironman, c'est valable pour des trails de toute distance. Arbitrairement, on peut pas dire le marathon aujourd'hui, voilà, on va mettre à 3h50 la limite, parce qu'au-delà, on considère qu'on a trop marché par rapport à ce qu'on a couru. C'est peut-être vrai pour un athlète de bon niveau dans sa jeunesse, et puis dans sa pleine capacité d'endurance. Maintenant, une personne de 65 ans qui veut faire son marathon, 3h50, c'est probablement très difficile, voire impossible. Donc on peut pas, on est obligé de donner à ces personnes-là qui vont se dépasser sur l'épreuve plus de temps. Maintenant, c'est vrai qu'une personne qui a 30 ans, qui ne s'est pas entraîné du tout, puis qui a dit maintenant je vais finir mon marathon, puis qui va le faire en 5h30 parce qu'il va courir 10 km, puis ensuite uniquement marcher, voilà, on se dit bon, à l'entraînement, il aurait pu faire un peu mieux, il aurait pu faire plus, il aurait clairement les capacités de faire plus vite. Donc, ce n'est pas du tout la même approche pour moi.
Non, je suis d'accord avec toi. Et puis, tu sais, sur le fait de souffrir tout autant, voire même plus le temps se rallonge sur une même distance, j'avais encore une petite anecdote à te partager. C'était en 2008. Je me souviens, j'avais un ami qui était blessé, qui avait une double périostite. Malgré tout, c'est un sportif accompli, ancien karatéka, coureur. On a fait notre premier marathon à Paris ensemble en 2007. C'était un super moment. On a vraiment passé un bon moment, mais dans le dépassement de nous. Et puis 2008, on s'était dit qu'on remettrait ça, sauf qu'il était blessé, mais il a quand même tenu à courir ce marathon, et donc je lui ai proposé de l'accompagner, sachant que un mois après je courais le marathon du Luxembourg, et donc on a couru ce marathon tous les deux. On a passé la ligne en 4h21, et je t'assure que j'ai véritablement souffert parce que je m'étais entraîné à courir plus vite, parce que j'avais plus d'endurance, mais d'un autre côté, j'ai passé un bon moment à courir ce marathon avec mon ami qui, soit dit en passant, vaut 2h45 maintenant, hein. Donc voilà, si on veut faire un rapport par rapport à la vitesse ou au temps qu'on a mis, bah c'était juste un moment qu'on a passé ensemble. Et donc, bah quelqu'un qui vaut 2,45, qui fait 4h20 parce qu'il veut passer la ligne et passer un bon moment avec un ou des potes, bah pourquoi pas ? Oui, effectivement. Mais je crois que lui, comme moi, on a plus souffert en 4h20 sur ce marathon de Paris à piétiner que lui en 2,45 sur le meilleur marathon qu'il ait fait et moi un mois après à Luxembourg sur un marathon ultra vallonné qui est beaucoup plus difficile, où j'ai quand même couru beaucoup plus vite. Donc c'est assez difficile effectivement de fixer des barrières, mais encore une fois je voudrais, et je pense qu'on se rejoint sur ce point là, qu'on arrête de banaliser ces distances là. Être marathonien c'est être marathonien, être un Ironman c'est être un Ironman, et puis même parfois courir 10 bornes pour quelqu'un qui se remet à la course à pied ou quelqu'un qui a des problèmes de santé, et ben c'est aussi un effort surhumain qu'il faudrait voir à ne pas banaliser pour tout le monde.
Bah, tu vois, un 10 bornes, ça peut être quelque chose d'extraordinairement difficile. Si on le fait vraiment à bloc et qu'on le fait vraiment aux limites de ses capacités, un 10 km, c'est extrêmement compliqué parce que on est à une intensité extrêmement élevée et ça dure quand même un certain temps. C'est vraiment, voilà, ces distances, moi, que je trouve extrêmement difficiles. C'est un petit peu comme le 800 mètres, tu vois, le 10 km. C'est, tu dois te gérer, mais tu dois aller à fond, en fait. C'est hyper compliqué. Et donc, voilà, ça peut être des distances qu'on considère comme extrêmement banal, et n'importe qui s'entraîne régulièrement en course à pied peut courir 10 km à l'entraînement. Mais le faire en allant chercher son record personnel et en étant vraiment à une intensité vraiment très élevée sur 10 km, ça peut être très, 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 très fatigant. Ça peut être un exploit aussi.
Ouais, je confirme. Bon, on parle quand même pas mal de distance, de temps, de banalisation de tout ça et notamment de sport d'endurance. Pour mesurer le temps, en général, on utilise des petits objets que tu as l'habitude de disséquer sur ton site de Nakan, mais j'ai l'impression que plus on monte dans les... plus on se rapproche de la tête de course et de moins en moins on voit de montres au poignet des sportifs élites. Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, alors là, on parle d'une anecdote. Hein. On en parlait en off juste avant d'enregistrer. C'est parce qu'on a regardé les championnats du monde de distance Ironman qui avaient lieu cette année à Saint-Georges. Enfin, cette année. C'était les championnats du monde
2021
qui avait lieu en 2022 à Saint-Georges dans l'Utah à la place de se dérouler à Hawaï où ça a lieu traditionnellement. Enfin voilà, tout ça c'est merci à la pandémie de Covid, mais on a vu les mêmes choses en fait, hein. On a fait attention aux mêmes détails, c'est-à-dire qu'on a vu un vainqueur, Blumenfeld, qui d'ailleurs est champion olympique en titre, hein, qui arrive sur Ironman un petit peu comme une fleur et puis qui gagne largement avec son gabarit hors norme et puis son style un petit peu particulier. C'est quelqu'un qui a vraiment pas le physique de l'emploi du triathlète de longue distance, mais qui arrive au bout. Et puis, il a fait toute sa course avec une montre, et puis 500 mètres avant la ligne d'arrivée, il enlève sa montre, il la met dans la poche pour passer la ligne d'arrivée sans. Donc voilà, petit détail. Et puis deuxième détail, c'est qu'on voit Daniel Arif, hein, Suissesse, youhou, qui remporte la course. Et puis elle a couru l'intégralité de son Ironman sans montre. Donc effectivement, on voit qu'il y a des choses un petit peu particulières qui se passent.
Bon alors, tout ça fait pas ton business, parce que toi justement, ton side hustle, c'est de disséquer les montres, d'en parler sur ton blog. Donc est-ce que tu as, à ton avis, une idée de pourquoi est-ce que les sportifs portent de moins en moins de montres ? Alors, on parle beaucoup plus des sportifs pros, je pense, que des sportifs amateurs, déjà.
Alors, il y a deux anecdotes dont on a déjà parlé dans le podcast. Le premier, c'est quand on a invité Mike Egro. Donc, Mike Egro, c'est un triathlète qui est maintenant à la retraite. Il nous a parlé un petit peu de sa vie d'après. Mais...
Et d'ailleurs, pour autant, lui, c'est pas un ultra-trailer à la retraite, parce qu'il a bien performé ces derniers temps.
Oui. Oui, il a performé sur la Diagonale des Fous. Il est toujours dans le top 3 des trailers en Suisse. Donc effectivement, il est pas à la retraite surtout. Mais il nous a parlé de sa carrière de triathlète. Il a terminé notamment une fois 6e, hein, à Hawaï, ce qui est pas rien. On va pas banaliser ça.
C'est clair.
Tout à l'heure. Et en fait, Mike, il a jamais fonctionné avec un capteur de puissance sur le vélo. Il a rarement fonctionné avec des montres. Il a toujours été au feeling lorsqu'il s'entraînait et lorsqu'il était en compétition. Et ça revient à la deuxième anecdote. On en parlait il n'y a pas longtemps quand on parlait d'entraînement en natation. On parlait d'essayer de gérer au feeling son allure quand on devait nager zone 1, zone 2, zone 3, etc. Et puis que c'était important aussi de le faire quand on fait de la course à pied ou du vélo, même si on a l'habitude d'avoir des watts, d'avoir une allure, d'avoir tout plein d'informations sur la montre. Parce que le jour où on est en compétition, si tout d'un coup on a un problème technique sur la montre, on doit pouvoir savoir à peu près dans quelle zone on se situe. Et c'est bien d'avoir une information au feeling. Et ces athlètes pros, en fait, le font tellement régulièrement, tellement souvent, qu'ils ont une expérience d'eux-mêmes et une expérience de leurs propres sensations qui est bien, bien plus développée que ne peut l'avoir un athlète amateur. Même si cette personne s'entraîne 12-15 heures par semaine, ça n'a rien à voir avec des entraînements de sportifs pros qui font facilement le double, voire le triple de volume d'entraînement et donc qui se connaissent par cœur à l'effort. Et donc, quand tu te connais aussi bien, est-ce que tu as vraiment besoin d'une montre pour gérer ta performance ?
Moi, ça m'inspire deux réflexions. La première, c'est effectivement, est-ce que tu as besoin d'une montre pour gérer ta performance ? Je ne suis pas certain, parce que effectivement, quand tu te connais bien, on a souvent l'habitude avec mon entraîneur d'employer le terme « avoir l'allure dans les jambes » quand on parle de course à pied. Je ne pense pas que tu en aies besoin. Mais que ce soit en termes d'allure, qu'en termes d'intensité ou en termes de fréquence cardiaque, je veux dire, tu sens assez facilement quand tu as le palpitant qui se met à s'affoler alors que t'es sur une section de course à pied où normalement t'es censé être beaucoup plus bas en termes de fréquence cardiaque. Donc déjà, ça m'inspire cette réflexion-là. Non, effectivement, je pense que t'as pas besoin d'appareil pour juger ton entraînement quand tu te connais parfaitement bien. Malgré tout, ça peut peut-être te donner quand même quelques pistes, et notamment au début, pour justement apprendre à te connaître. C'est toujours pareil, hein. C'est avec la répétition qu'on maîtrise les gestes, qu'on maîtrise les choses. Et donc, si au début, t'as pas trop l'habitude de courir, prenons un coureur qui se connaît parfaitement bien, mais qui se met au triathlon et donc qui n'a pas l'habitude de faire du vélo. Pour juger de son effort en vélo, il va peut-être falloir effectivement que une séance sur deux, une séance sur trois ou deux sur trois, il soit guidé par un appareil qui lui dit là t'es à telle puissance et que cette personne se rende compte de la zone de puissance ou la zone des fréquences cardiaques dans laquelle elle se sent bien. La deuxième réflexion que ça m'inspire, puisque on a parlé de cet événement des championnats du monde, c'est les sportifs pros, certains sportifs pros se connaissent tellement bien qu'ils n'ont pas besoin d'appareil. Mais de là à, comme Blumenfeld, l'enlever à quelques mètres de l'arrivée, quelle est l'explication à tout ça ?
Oui, alors juste avant de parler de ça, on va parler de l'expérience de soi. Hein. Il y a quand même un mythe par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même énormément d'athlètes qui, même si lors de la compétition n'utilisent pas de montre, utilisent ces outils-là à l'entraînement, ne serait-ce que pour faire un pointage régulier sur leur niveau de performance, sur leur état de forme, sur leur état de fatigue. C'est quand même, on en a parlé depuis le nombre d'épisodes qu'on fait, un outil qui est formidable, et on le voit sur le Tour de France. Il n'y a pas un seul cycliste qui a pas ses watts sous les yeux quand même pour faire de la performance. Ou en tout cas, ils sont très peu nombreux. Donc, il y a quand même énormément de sportifs de haut niveau qui utilisent ces gadgets-là, en compétition et surtout à l'entraînement. Mais effectivement, Danielle Arif, j'imagine qu'elle s'entraîne avec une montre et avec un compteur sur son vélo, pas forcément tous les jours, pas forcément toutes les séances, mais pour les séances clés, pour des séances d'assessment et puis de pointage dans son entraînement pour redéfinir un petit peu la suite de la planification, elle doit en utiliser avec de la fréquence cardiaque, avec des watts, enfin peu importe, mais voilà, l'utilise. Maintenant, Blumenfeld, il enlève sa montre 500 mètres avant la ligne d'arrivée. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, première chose, il a utilisé sa montre pendant la course, hein, puisqu'il la porte du début à la fin, mais il ne la porte pas sur la ligne d'arrivée. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas une raison de performance, ce n'est pas qu'il n'en a plus besoin pour les 500 derniers mètres, donc du coup, il dit « bon, congé », ça c'est clair. C'est juste une question d'image de visibilité, parce que probablement qu'il porte, on le voit, hein, une montre Garmin, et il n'est pas sponsorisé par Garmin, et il n'a pas signé de contrat avec eux, donc il n'a pas d'income, de revenus qui viennent d'un contrat de sponsoring avec Garmin. Il se dit, je ne vais pas leur faire de la publicité gratuite. S'ils veulent que je passe la ligne d'arrivée avec leur montre, on signe un accord, j'ai un logo Garmin sur ma trifonction, j'ai ma montre Garmin sur la ligne d'arrivée, et puis tout simplement, ben, je la porte là. C'est simplement voilà, un moyen de mettre un petit peu la pression, ou en tout cas essayer de trouver un sponsor, parce que j'imagine qu'il n'est pas forcément 100% attaché à une montre Garmin, et si une autre marque lui fait une offre, c'est un petit message comme ça, à mon avis, qui traîne en disant, ben voilà, j'avais pas de montre, si vous voulez que ce soit la vôtre, on discute.
Ouais, on parlait aussi en off du cas, entre guillemets, de Kylian Jornet qui, pendant des années, a été sponsorisé par Suunto et pourtant, on le voyait très rarement courir avec une montre. Bon, on est bien d'accord, Kylian fait partie de ces sportifs qui sont des extraterrestres, que d'ailleurs, j'aimerais bien recevoir un de ces jours dans le podcast, mais c'est pas gagné. Voilà, je pense qu'effectivement, il y a peut-être une question d'image, une question de sponsoring, une question aussi tout simplement de, effectivement, se connaître parfaitement bien. Tu parlais de Mike Egro, qui est un sportif suisse. Moi, pour un autre podcast, j'ai eu la chance d'interviewer Emma Bilham, dont on a déjà parlé en off tous les deux, et elle nous confessait que bah, elle n'a jamais utilisé de capteur de puissance jusqu'à ce que son entraîneur qui était tellement frustré par cette chose lui a imposé, et elle nous disait que effectivement elle a un compteur de puissance, un capteur de puissance sur son vélo et en course à pied, mais elle l'utilise pas, c'est juste pour collecter les données et que son entraîneur les analyse.
Oui, mais ces gens-là, ils en ont pas besoin en fait de l'analyser eux-mêmes, vu qu'ils ont des gens qui le font pour eux. Ça, je comprends tout à fait. Quand on est un sportif amateur et puis qu'on n'a pas un coach, ben, on est bien obligé de se coltiner l'analyse des données, on est obligé d'essayer de comprendre à quoi ça sert et comment ça marche. Ces athlètes-là, on n'en a pas besoin. Quand Danielle arrive, je dis qu'elle utilise probablement une montre pour certaines séances, elle porte la montre, elle enregistre les données, mais une fois qu'elle a terminé, elle met sur off, elle synchronise sa montre et puis elle passe à autre chose. C'est pas elle qui va aller dans la plateforme d'entraînement regarder ce qui s'est passé. Elle a des gens qui font ça pour elle et puis qui vont lui dire, écoute Daniela, voilà, ta fréquence cardiaque était de temps, donc moi ce que je vois c'est ça, et puis pour les deux prochaines semaines on va se concentrer sur tel aspect de ton état de forme, de tes capacités aérobie, anaérobie, etc. Mais c'est pas elle qui va faire ça, et je pense que les sportifs, les athlètes pros ont d'autres choses à penser, de la récup, de la nutrition, de plein d'autres choses que de scoltiner l'analyse de données. Donc c'est la double peine pour les sportifs amateurs comme nous, en fait.
Ouais, bah tu sais, justement, je voulais te demander, toi, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses qu'effectivement, on en a déjà parlé, mais je pense que ça vaut la peine de le redire, est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt pour les sportifs amateurs comme nous d'utiliser ce genre d'appareil pour suivre, monitorer, voire même contrôler leurs entraînements?
Bien sûr, on en a parlé à plein d'aspects différents. Donc on a parlé de l'économie de course, par exemple, avec des données spécifiques. On a parlé de gérer un petit peu son état de fatigue et sa récupération avec la variabilité de fréquence cardiaque. On a plein d'outils qui sont super utiles. Maintenant, moi, ma philosophie, c'est d'enregistrer les données. Denis le disait, hein, toutes les données qu'on peut enregistrer, on les enregistre. Et c'est valable aussi pour les métriques qui sont enregistrées par nos montres, mais par contre il n'y a pas besoin de faire une analyse systématique de toutes les données lors de chaque entraînement. Je vais faire une sortie aujourd'hui de fractionner, je vais regarder mes temps sur mes 10 x 400 mètres par exemple, pour voir s'ils sont consistants entre le premier et le dernier par rapport à ma dernière séance de 400 mètres. Et puis le reste, je m'en fous. Je vais juste les stocker dans ma plateforme et puis faire des rapports sur le mois en cours ou sur certains types d'entraînement, etc. à la longue, quand j'en aurai besoin. Mais aujourd'hui, j'ai pas besoin de passer 25 minutes sur les données de mon entraînement du jour si la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que mon premier 400 mètres était consistant avec le dernier, et puis à combien j'ai couru mes 400, est-ce que c'était plus vite ou moins vite que la dernière fois. Une fois que j'ai analysé ça, ça m'a pris 1 minute 30, je peux passer à autre chose. Mais c'est important d'avoir ces données par la suite pour les mettre, les consolider avec plein d'historiques, et pourquoi pas pour les saisons prochaines, pour refaire un petit pointage et puis savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans son entraînement.
Ouais, là, tu viens de détruire un mythe. Moi, je croyais que tu passais des heures et des heures à analyser chacune de tes séances d'entraînement. Non, je blague évidemment, mais en tout cas, peut-être pour clôturer, je me dis qu'il ne faut quand même pas avoir de syndrome du FOMO, ce fameux fear of missing out, parce que pour mon cas, effectivement, mon entraîneur me donne très souvent des séances au feeling, par par habitude, enfin quand je courais, j'ai commencé à laisser de côté la montre, à ne pas la regarder pendant que je m'entraîne, pendant que je cours ou pendant que je nage. Malgré tout, j'ai toujours mon capteur cardio-thoracique, j'ai maintenant un capteur de puissance et en fait j'enregistre. Je ne sais pas les analyser, je ne sais pas trop pourquoi, je ne les regarde pas forcément pendant l'entraînement, mais je ne veux pas rater une occasion d'enregistrer ces données. Et je me dis qu'un sportif, qu'il soit amateur ou pro, qui s'aligne sur un départ de compétition sans montre, ou sans appareil spécifique pour enregistrer ces données, il est fort dans sa tête, parce que moi justement je me dis que c'est justement là en compétition que ça mériterait d'être analysé, les données.
Ouais, alors effectivement on peut se poser la question maintenant, le jour de la compétition on est tellement à bloc, on a les temps qu'on réalise sur la distance, est-ce qu'on a besoin forcément de plus? Ça se discute. Pour revenir à ce que tu dis, moi effectivement je conseille, même si on fait des entraînements très structurés, qu'on suit un plan, etc., je conseille de faire une fois toutes les deux semaines par exemple un entraînement en fartlek. Donc fartlek, c'est vraiment courir à la sensation. On peut partir avec sa montre et enregistrer les données, ou le compteur vélo, on peut faire le même type d'entraînement. Par contre on regarde pas les données. On configure la montre pour qu'elle affiche juste l'heure ou voilà. Et puis on court à la sensation. Mais par exemple, je dis maintenant, je vais faire une quinzaine de répétitions de durée à peu près de 1 minute. Mais encore, je regarde pas la montre pour voir un petit peu si la notion du temps, etc., j'ai la bonne référence. Et puis je vais les courir à allure 5 km ou allure 10 km. Et puis je cours ça au feeling. Et puis quand je rentre, par contre, là, je peux analyser mes données et dire tiens, là j'ai dit que je courais mon allure 10 km, donc si j'avais eu la montre sous les yeux, j'aurais mis tant de watts, ou j'aurais été à telle allure ou à telle fréquence cardiaque, mais je ne les avais pas sous les yeux à combien j'étais. Et on regarde si on est très proche ou très loin de la réalité. Et puis on essaye, comme ça, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à gérer son intensité. Et ça, c'est tout bénéfice, non seulement parce qu'au cours des entraînements, ce sera plus facile. Quand je dois faire un 10 x 400 mètres, si je veux me mettre directement en zone 4, et puis que je sais que je l'ai, comme tu dis tout à l'heure, dans les jambes, je vais me mettre directement à la bonne allure, plutôt que de partir trop fort, de regarder la montre, de devoir ralentir, après d'être trop lent, et au début, on fait tout ça. Hein. Et ça permet aussi en compétition, si un jour on part en compétition et que tout à coup il y a tout qui nous lâche au niveau de la technologie et puis que de continuer et à performer le mieux possible sans ces données.
Moi, je valide à 400%, donc je pense que les prochains entraînements, on va tous se faire des sessions au feeling en mettant la montre dans la poche, que ce soit en hiver ou alors en retournant la montre à l'intérieur du poignet en été si on n'a pas de poche pour emmener avec nous.
Oui, sur la Garmin, tu configures un écran de données où tu affiches une donnée bidon ou et puis tu cours avec cet écran de données là. Mais tu enregistres tout et à la fin tu compares. Et c'est intéressant.
Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour là. On s'était dit qu'on aborderait le premier sujet, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les distances d'endurance commencent à être un peu trop banalisées. Et puis on a bifurqué sur les montres. C'est pas mal. On aura proposé presque 3/4 d'heure d'épisode à nos auditrices et nos auditeurs.
Bah oui, et puis effectivement, un épisode 2 en 1. Donc voilà, deux choses qu'on a abordées aujourd'hui. C'était intéressant de partager tout ça avec toi.
Ça nous manque un petit peu ces épisodes en tête à tête. C'est vrai qu'on a pas mal d'invités. Malgré tout, on a les épisodes de foire aux questions où soit toi, soit moi, pas beaucoup, soit tous les deux, on répond à une question de nos auditrices ou de nos auditeurs. Donc on vous le rappelle, n'hésitez pas à aller soit sur podcast.nakan.ch et à chercher nos données de contact et à nous envoyer un petit mail ou alors un petit message WhatsApp ou Telegram ou un petit message audio sur Anchor, et on se fera un plaisir non seulement de les écouter mais aussi d'y répondre pour vous aider à avancer un petit peu dans votre pratique et puis éventuellement dans votre vision du sport. Et n'hésitez pas à nous dire si pour vous le marathon c'est une distance banale ou au contraire c'est quelque chose de surhumain, ou même si vous utilisez une montre, et si oui, laquelle, on se ferait un plaisir de lire vos retours.
Oui, et pourquoi pas de les partager, hein, on pourrait faire le courrier des lecteurs, mais du podcast. Si vous avez des messages audio que vous voulez témoigner de votre propre expérience, de la banalisation des distances, ou de l'utilisation de la montre, ou de réagir sur n'importe quel autre sujet qu'on a abordé déjà dans les épisodes passés, vous nous faites un petit message audio à travers la plateforme Anchor, vous trouvez tous les détails sur podcastnakan.ch. Et puis, nous on l'inclut dans la prochaine FAQ, votre témoignage sur ces avis. Et puis si vous préférez la forme écrite, Vous allez sur Apple Podcast, vous laissez une revue du podcast et puis vous écrivez tout ce que vous pensez, de bien idéalement, de mal s'il y a des choses qu'on fait mal. Et puis vous nous donnez une petite note sous forme d'étoile et nous on est très contents de les lire, vos retours, et puis de les prendre en compte pour les prochains épisodes.
Je te donne rendez-vous la semaine prochaine du coup pour une foire aux questions, et puis dans 2 semaines justement pour ce fameux épisode sur le dopage en forme de témoignage.
Oui, tout à fait. Bah, avec plaisir, la semaine prochaine on va répondre à la question d'une auditrice ou d'un auditeur. Et puis on se réjouit de recevoir toutes les questions qu'ils ont encore pour y répondre tout au long de cette saison 4.
Ciao Greg.
Ciao.